Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du CQFR. Avant qu'on commence, on voulait simplement rendre un petit hommage à Yann Dallon, artiste incroyable avec qui on avait eu la chance de collaborer pour le magazine Reverse et pour le MOOC Reverse. C'est lui qui avait signé notamment la couverture de notre numéro 55 du magazine Reverse avec une illustration magnifique de Stephen Curry. C'est aussi lui qui avait réalisé la couverture de notre MOOC spécial New York qu'on avait eu l'occasion de rééditer récemment. Hier, nous avons appris, on a été estomacés d'apprendre la disparition de ce jeune artiste plein de talent qui avait été ça avait été un bonheur de travailler avec lui. Donc, on va repartir maintenant sur l'actualité, mais une pensée émue pour ses proches, sa famille. Courage à eux. On est vraiment, je vous le dis, on est encore un petit peu sous le choc. Donc, n'hésitez pas à aller voir le travail incroyable qui était le sien, passionné de sport. On vous mettra les liens en description. C'est une immense perte pour le monde de la culture sportive, en tout cas celle qui nous anime. Voilà, une pensée à tous. Et puis, on part maintenant sur le CQFR avec Chaï et Antoine. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup Théo. Évidemment, une pensée pour sa famille, toutes nos condoléances. Du coup, le basket derrière, bon, on peut enchaîner sur les matchs. C'est sûr que ça prend ça passe un peu au second plan, mais il y avait quand même quatre matchs cette nuit. Chaï, on avait commencé à presque plus ou moins les regarder ensemble pendant la late session hier sur Twitch. Et au moment où on regardait Milwaukee-Los Angeles, Milwaukee était largement devant. Je crois que les Bucks ont décidé de me faire passer pour un idiot.
j'allais dire que c'est le premier message que j'ai vu de toi ce matin. Les Bucks ont décidé de me faire passer pour un con. Voilà.
Les Bucks qui ont perdu après avoir mené... Donc, il y avait 16-17 points dans le premier quart-temps, 16 points à la mi-temps, 19 points d'avance à 8 minutes de la fin du match et défaite de Milwaukee après deux prolongations contre des Lakers sans LeBron James. Défaite 124-128. Un Austin Reeves héroïque, un personnage d'Astérix. C'est le pote d'Astérix. Il s'appelle Héroïx. Mais oui, donc Austin Reeves héroïque, mais aussi, j'arrive pas à m'enlever de la tête que ces Bucks-là, franchement, c'est pas sérieux. Quoi. Comment tu peux perdre ça?
Bah, le match était dans leurs mains quand même. Enfin, ils avaient encore 19 points d'avance dans le quatrième quart-temps. Ils étaient largement en contrôle. Il n'y a pas LeBron. LeBron, sa seule action du match, c'est d'avoir compté les secondes sur les lancers d'Yanis. Enfin, ils étaient normalement. Normalement, les Bucks avaient ce match en main. Et alors, c'est tout à l'honneur des Lakers d'avoir de s'être accroché. Notamment Anthony Davis, faut se souvenir, parce que tu as raison, Austin Reeves, forcément, on se rappelle, on parle de lui parce que c'est lui qui met le panier à 3 points dans la deuxième prolongation pour que les Lakers puissent passer en tête, donc panier clutch. Mais Davis a été aussi dans le genre héroïque, il était pas mal quand même, parce que c'est un joueur dont on a beaucoup stigmatisé l'incapacité à rester sur le terrain sans se blesser sur une période étendue. Là, il joue 52 minutes cette nuit. Cette saison, il est ultra fiable sur le nombre de matchs et il est aussi clutch d'une certaine manière parce que au buzzer de la première prolongation, il va contrer Lillard qui a un layup qui paraît simple pour lui. Et il arrive à revenir à contrer, à provoquer la prolongation suivante et il finit en plus avec des stats assez démentes, 34 points, 23 rebonds, 4 contre. Donc c'est super match d'Anthony Davis. Par contre, ça n'enlève rien au fait que c'est un craquage des Bucks qui peuvent pas, ils n'ont pas encore assez de certitude. Tu vois, on parlait des Celtics hier qui ont fait un craquage aussi, sont laissés remonter par les Hawks, mais c'est, si tu veux, ils ont déjà assez d'assurance et c'est un relâchement un peu coupable. Là, les Bucks, ils sont pas encore assez, pour moi, ils ont pas encore montré assez de choses pour se permettre, entre guillemets, ce genre de loupé.
Et le truc qui m'inquiète, moi, c'est que j'ai l'impression que c'est pas la première fois. C'est surtout ça, parce qu'à la limite, tu vois, des accidents, ça arrive. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que les Bucks perdent comme ça. Alors, peut-être pas exactement comme ça, peut-être que c'est la première fois cette saison, mais j'ai l'impression qu'il y en a eu d'autres, des craquages. Et là, ils sont en complet. Là, ils sortent. En fait, ils sortent d'un excellent match contre le Thunder. Ils dominent ce match contre les Lakers. Je sais, ça fait bizarre qu'à la fin, il y ait une défaite. Quoi. Après, oui, Davis, tu l'as dit, 34 points, 23 rebonds, 4 contre. Il s'est blessé au genou, d'ailleurs.
Il
s'est blessé
au genou,
il est resté sur 52 minutes. Il y a 29 points d'Angelo Russell avec 12 passes. Il y a 29 points.
Très bien, d'Angelo aussi.
D'Angelo qui a été très bon. 29 points, 14 rebonds et 10 passes. Son deuxième triple-double en carrière, ça, c'est pour Austin Reeves. Il a donc mis, comme tu le disais, le panier pour repasser devant. Les Lakers ne sont pas menés une seule fois dans ce match avant la deuxième prolongation, ce n'était pas le panier de Reeves quand même, ouais. Pas déconner, mais c'était un panier de Dinwiddie à 3 points. Et avant ça, ils n'avaient pas mené une seule fois du match. Du côté des Bucks, Giannis, il finit à 29 points, 21 rebonds, 11 passes. Donc lui aussi, il est en triple-double. Mais il a raté des lancers décisifs. 1 sur 6 au lancer, d'ailleurs, au passage. Il en a raté 2 décisifs. Et surtout, il avait fait le gros du boulot. Enfin, il avait déjà, à la mi-temps, je crois, il était à 17 points, 11 rebonds. Alors, j'avais regardé le match jusqu'à la mi-temps, je crois qu'il était à 17 points, 11 rebonds. Il finit à 29-21. 27 points de Lillard, mais à 9 sur 29. Ah, c'est terrible. Hein. C'est un match très offensif, mais avec beaucoup de maladresse au passage.
Ouais.
Donc, enfin, très offensif. Il y a eu 128 points et 124 points marqués, mais c'est parce qu'ils ont joué pendant une heure. Quoi.
Mais tu vois, c'est Giannis qui le soulignait à juste titre après le match. Il y a eu l'impression que la circulation de balle a complètement disparu à Milwaukee en fin de match. C'était plus du tout fluide, c'était hyper stagnant. Et il a dit que c'était quelque chose qu'il fallait régler absolument parce que contre des équipes qui... Il a reparlé du fait qu'il y avait plus d'avance au tableau d'affichage qui était safe maintenant en NBA, de toute façon, on le sait. Et tu peux pas, quand t'arrêtes de faire circuler la balle et que tu mets plus un panier et que derrière t'arrives plus à défendre correctement, bah, il peut t'arriver des galères comme ça. Donc il y a faute des Bucks et bravo quand même aux Lakers parce que c'est faut quand même réussir à le faire.
C'est une très belle perf des Lakers, c'est leur plus belle victoire de la saison.
Ça sans LeBron en plus, donc et c'est le premier de leurs 6 matchs d'une série de 6 matchs à l'extérieur, donc c'était peut-être pas celui sur lequel ils avaient tablé à la base.
Et eux peuvent encore rêver plus ou moins de monter au classement. Il y a 2 matchs d'écart quoi, avec la 8e place et la 7e place. Il reste quelques matchs, il reste 10 matchs. C'est pas simple de remonter 2 matchs d'écart en 10 matchs, mais c'est encore une possibilité.
Ça va être dur, mais l'essentiel, c'est quand même de s'assurer peut-être l'avantage du terrain sur l'éventuel play-in contre Golden State. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qui est l'essentiel pour eux.
Bah, Golden State, justement, qui a battu Miami 113-92. Après une première mi-temps équilibrée, les Warriors ont quand même accéléré en deuxième mi-temps pour faire la différence. 28 points de Klay Thompson, qui était revenu dans le 5 majeur. Steve Kerr a fait un changement dans sa rotation. Il a sorti Podziemski. On verra ce que ça donne au prochain match. J'ai l'impression que Clay est titulaire a priori, mais je pense qu'il va redevenir titulaire, fin de l'expérience peut-être. Et du coup, on a un 5 Curry, Clay, Wiggins, Kuminga, Draymond Green. Ça a plutôt bien marché pour les Warriors. En face, il manquait beaucoup de monde du côté de Miami, mais donc victoire de Golden State qui se relance. C'était important de se relancer, surtout voilà, il y a un autre match après à Orlando, il y a Houston qui souffle derrière. C'est important, je pense. C'est important d'aller chercher cette victoire.
Tu sais, lundi, on parlait de la frustration des fans du Heat face à l'irrégularité de Miami, face au fait que ça ne fait pas quelle équipe ils allaient avoir sous leurs yeux d'un match à l'autre. Bah là, voilà, il n'y avait pas Jimmy Butler qui était parti faire la fête avec Neymar la veille, je pense. Il était avec son pote à Miami, on ne l'a pas revu après. Duncan Robinson, toujours pas là. Bon, évidemment, les absences plus longues durées, Tyler Hero, Kevin Love, c'est le hit était frustrant. Le Heat n'a pas très bien défendu non plus par rapport à ses standards. Ils ont laissé shooter les Warriors à 55%. L'irrégularité chronique est presque inévitable de cette équipe.
Mais même au sein même du match, parce qu'en fait, la première mi-temps, ils sont pas trop mal, quoi. C'est ça.
Non, ça va. Ouais.
En première mi-temps, et la défense de zone, elle a gêné un peu les Warriors. Mmh. Et deuxième mi-temps, pas du tout la même chose. 24 points, 9 rebonds, 5 passes pour Bam Adebayo. Mais derrière, pas grand-chose à signaler du côté de Miami, qui est toujours 7e, mais qui est avec le même bilan que les Sixers, et qui a maintenant un match et demi d'écart, avec les Pacers 6e.
T'en penses quoi de la faute, de la nouvelle prise de Draymond Green
Ouais, c'est marrant.
Il n'y a pas eu technique, hein, il a juste pris faute normale, il a attrapé Patty Mills au cou, alors brièvement, mais sur... Sur une sorte de... C'est quoi, c'était sur un box-out?
Ouais.
Sur une remise en jeu.
Je sais même pas si c'était une remise en jeu, parce que le hit était en train d'attaquer. Mais il défendait... En tout cas, il défendait pas sur la balle, ça c'est sûr. Ouais. On était en pleine late session. Je me souviens, le truc avait bugué. J'ai l'impression qu'il y a un replay pendant...
Ouais, c'est ça.
pendant 15 minutes. Alors que c'était mon League Pass qui avait bugué. Mais ah, écoute, il s'en sort sans technique.
Ouais, ça pouvait mériter, ou alors est-ce que c'est juste moi qui me dis qui a l'impression de voir toutes les actions de Draymond Green
il le retient un peu, mais...
C'est toujours pareil, t'as l'impression, c'est semi, je fais pas exprès, mais semi, je vise quand même vachement bien pour t'attraper au... Enfin bon, bref, on va pas... Il a pas pris de technique, mais ça aurait pu, ouais.
Yes. Allez, autre match, victoire du Thunder contre les Pelicans. Yeah. OKC qui a gâché 20 points d'avance, mais qui a réussi. C'est ce qui m'impressionne sur cette victoire. C'est que c'est quand même la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue. Et ça, c'est une victoire de vétéran, en fait. Mm. Tu avais 20 points d'avance, tu gâches tes 20 points d'avance, tu es contre une bonne équipe et tu réussis à ne pas paniquer, comme on le dit souvent, hein, à l'image de chez Gilgeous Alexander, à l'image de cette équipe. Bon, OK, bah, je ne panique pas. On se reprend, on refait le boulot et ils ont recreusé l'écart à la fin pour gagner 119-112 contre les Pelicans. Des Pelicans qui jouent sans Ingram en ce moment, mais bon, avec un bon Zion, 29 points, 10 passes. Et du coup, du côté du Thunder, 26 points de Jalen Williams qui a été décisif à la fin.
Ouais, c'est lui. Hein. Il y a le 25... run de 12-0 à la fin, il met 4 points et c'est vraiment lui, je trouve, qui a initié le... Parce qu'ils sont, ils sont menés de 6 points à un peu plus de 3 minutes de la fin. Hein. Donc les Pelicans, c'est vraiment repassé devant. Et je trouve que c'est vraiment Williams avec Shea aussi, évidemment, mais Williams impressionne.
Et Josh Giddey. Josh Giddey, 25 Giddey points. Il est excellent en ce moment. Il est sur une très bonne série de matchs, là, Josh Giddey. Alors, il y a eu un match à 5 points récemment, mais dans l'ensemble, en attaque, il est plutôt performant en ce moment. Donc, 25 points de Josh Giddey, 5 paniers à 3 points et 24 points à 8 passes pour Shea Gilgeous-Alexander. C'est le trio gagnant, grosso modo, du Thunder sur ce match.
Ouais, t'as raison de souligner la maturité de l'équipe qui a pas paniqué après s'être fait remonter contre une bonne équipe. Et ça fait encore. Et c'est eu que des victoires à l'extérieur cette nuit. Hein. Sur les quatre, toutes les équipes qui étaient en déplacement ont gagné. Et malgré un bon Zion, comme tu le soulignais aussi, qui fait encore 10 passes, j'aime bien le Zion Playmaker. Moi.
Pareil, il a commencé très fort. D'ailleurs, quand il n'y a pas Ingram, il est.
Encore meilleur ?
Non, Parce que ça, c'est un peu simple, tu vois, de dire, OK, il n'y a pas Ingram, il est performant, mais il a plus d'espace. Pas forcément plus d'espace, mais plus de ballons, en fait, plus de responsabilités.
Par contre, il n'a pas du tout pesé dans le money time. Hein,
il a fait le gros de son match en première mi-temps.
Hein, quand OKC repasse devant, il a fait le run de 12-0, Zion n'était pas trop là. Je crois que c'est Trey Murphy, il y a un shoot de Trey Murphy qui leur donne les 6 points, et derrière, OKC a fait le job et continue du coup de mettre la pression sur Denver. Enfin, il y a toujours pas tellement qui continue de mettre la pression parce que ça, Denver a récupéré la première place il n'y a pas si longtemps, mais la lutte continue en tout cas.
Denver d'ailleurs qui a déjà reposé des cadres au dernier match. Hein.
Tu l'avais dit.
Ça va continuer, les Nuggets, ils vont pas.
Ça les empêche pas de gagner, cela dit.
Mais après, ils peuvent toujours être premiers. New Orleans d'ailleurs qui repasse cinquième. Je sens que les Clippers s'est joué, mais New Orleans avec cette défaite repasse cinquième. Et il y avait donc un dernier match, un match important, et je l'ai pas vu, donc je peux pas trop parler sur l'état d'esprit des Kings, mais si à la juste simple lecture du score, que les Mavericks battent Sacramento 132-96 dans un match quand même important à domicile pour Sacramento, où les quatre cartons c'est Dallas qui a gagné.
La première mi-temps, ça va. La première mi-temps, ça allait.
Ouais, mais ils ont gagné les 4 cartons en finale.
Ouais, ouais, bien sûr.
Il y avait 5 points d'écart. Là-même.
Après, le côté, ils se sont complètement couchés après en deuxième mi-temps. Il n'y a plus. Et pourtant, Luka fait l'essentiel de son taf en première. Et d'ailleurs, c'est plutôt Kyrie et Tim Hardaway qui ont été meilleurs. Mais la deuxième mi-temps, 74-43 quand même. À Sacramento, les Kings, toujours, on le dit un jour sur deux. Ils sont parfois très très séduisants, très très forts, et là sur un match où ils doivent être au rendez-vous, sauf s'ils se foutent totalement de la sixième place, mais je pense pas, parce que eux particulièrement ils aiment l'avantage du terrain, enfin ils aiment jouer à domicile. Il y a toute l'effervescence.
Enfin, sixième, ils joueront pas à domicile. Hein.
Ah oui, voilà, mais
c'est juste évite le play-in quoi.
Évite le play-in, voilà.
Évite le play-in où il y a des candidats comme Phoenix, Los Angeles, Golden State, des équipes qui ont des stars a priori plus fortes que ta star, enfin c'est.
C'est ça. Et bon, là, OK, il tombe contre une équipe de Dallas qui est en forme, cinquième victoire de suite. C'est vraiment l'équipe qui me semble la plus fiable pour dans cette lutte pour la sixième place. Mais ouais, ça manquait un peu de combativité en deuxième mi-temps, on va dire.
Ce qui est ironique, c'est que Dallas est finalement encore en course pour la quatrième. Et je sais, en fait, tu peux pas faire de calcul. Tu peux pas faire de calcul, effectivement, parce qu'on ne sait pas où va finir Oklahoma City. Mais j'aimerais juste poser ça là. Si Dallas est sixième et joue Minnesota troisième, Minnesota potentiellement privé de 4. Honnêtement, j'aurais du mal à miser contre Dallas sur cette série. Ça peut sembler fou pour les fans des Timberwolves qui n'ont pas apprécié, mais j'aurais du mal à miser contre Dallas, même si je pense que ce n'est pas le meilleur match-up pour les Mavericks. Derrière, tu joues potentiellement peut-être le Thunder, équipe jeune, inexpérimentée, qui aurait déjà gagné une série. Il y a quand même un vrai monde ou Dallas va jusqu'en finale de conférence.
Oui, c'est possible.
Sincèrement, je ne pense pas que ça soit que la sixième meilleure équipe de l'Ouest, si on se fie au classement, par exemple. Mm-hmm. Il y a une stat marrante. Quand Gafford est titulaire avec Luka Doncic, c'est ce que c'est leur bilan ?
Invaincu ?
12-0.
Ah ouais.
12-0 quand Gafford et Doncic démarrent dans le 5 ensemble.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc Doncic hier, c'était 28 points, 11 rebonds, 6 passes. Kyrie, 24,8 passes. Puis c'est l'équipe qui, à l'inverse des Clippers, tu vois, c'est l'équipe qui monte en puissance au meilleur moment. Bon, ouais. On est loin, mais au-delà, après, voilà, ça c'est le jeu des calculs, des pronostics. C'est le plus intéressant, c'est de dire pourquoi. Et je pense que vraiment, sur le papier, cette équipe, on en a parlé dans un podcast. Je vous invite plutôt à écouter le podcast. Je ne vais pas refaire le podcast ici, mais c'est une équipe qui a vraiment des arguments pour aller loin en playoff, qui a des atouts. Et je trouve qu'elle montre ces derniers temps en plus qu'elle est capable, voilà, de bien défendre, de faire des stops. Pas forcément de bien défendre sur toute la durée du match, mais de toute façon, c'est pas toutes les équipes qui savent bien défendre sur tout un match. Mais il faut être capable de faire des stops. On sait que si tu veux gagner une série, quoi qu'il arrive, il faut que tu sois au moins capable de faire des stops. Et cette équipe, elle est capable de faire des stops.
Ouais.
Et puis là, les Kings, qui sont a priori censés être une grosse attaque, sont limités à 96 points quand même.
Absolument.
Bon, ça, c'était les 4 matchs du soir.
Est-ce que tu as vu la déclat de Matas Boutzelis sur Zachary Risacher?
J'ai l'ai lu ce matin, j'ai vu que tu avais fait la news, j'ai vu que je ne sais pas pourquoi, donc bah vas-y, je vais te laisser en parler.
Alors ouais. Donc Boutzelis, pour ceux qui commencent à s'intéresser à la draft 2024, qui est dans 3 mois en gros, Boutzelis c'est un joueur de la Team Ignite là, qui va disparaître prochainement en G-League. Un gros talent, un très beau joueur, je vous invite à aller regarder des vidéos sur lui, c'est vraiment un joueur talentueux. Sur Basket News, il a été interviewé, il lui posait la question de la comparaison avec Zachary Risacher qui est en ce moment le joueur dont on parle le plus pour le first pick. Enfin, les Américains le placent fréquemment en tête dans les mock drafts. C'est un joueur qui est sur le même poste que lui, Boutzelis est né aux États-Unis, hein. C'est profil Sabonis, c'est-à-dire que c'est des parents lituaniens, mais il est né et il a grandi aux États-Unis. Mais il y a à côté, c'est un Européen contre Européen, poste contre, enfin ils sont sur le même poste, la taille est à peu près similaire, il y a 2 cm de plus pour Boutzelis. Donc ils nous demandaient ce qu'ils pensaient du fait que Zachary Risacher était dans les projections comme numéro 1, et s'il aimerait pouvoir prouver sa valeur dans un workout où Risacher participerait aussi. Et logiquement, on pouvait s'attendre à une réponse un peu diplomatique. Ouais, c'est un joueur talentueux. J'espère que voilà, qu'on sera drafté très très haut tous les deux. Je sais pas. Enfin, on aurait pu s'attendre à un truc comme ça. Mais Boutzelis, je crois qu'il a pas trop kiffé de voir Risacher numéro 1 et lui plutôt top 5 ou au-delà. Il a dit bien sûr que j'aimerais l'affronter en 1 contre 1. Il n'a aucune envie de faire ça face à moi. Son agent ne le laissera pas faire. Je le sais. C'est une business decision. J'ai l'avantage dans tous les domaines sur lui. Alors c'est audacieux. C'est audacieux.
Mais ça serait surtout.
Ouais.
Oh, pardon, vas-y.
Non, mais c'est audacieux parce que c'est un garçon qui a du talent, hein. C'est assez indéniable. Mais jusque-là, il joue dans la Team Ignite en G-League, qui va disparaître contre des équipes honorables, mais de mon point de vue, moins fortes que ce que Risacher affronte dans un des bons championnats européens et en Eurocup, puisque Bourg est en demi-finale d'Eurocup aussi quand même. Ils ont gagné le premier match contre le Beşiktaş hier, par ailleurs. Et donc, ça m'a un peu surpris, le côté audacieux du garçon, à dire, bah ouais, quand tu veux, 1 contre 1, c'est moi le meilleur. Bon, c'est une approche un peu particulière, voilà.
Mais surtout, il ne va pas être drafté dans une ligue de 1 contre 1. Ni même une ligue de 3-3, à la limite, si vraiment on voulait rester sur du bas. Il arrive en NBA, les profils sont complètement différents. Mais bon, c'est bien, ça créera un peu de piment le jour où ils se retrouveront. J'imagine que la NBA va en surfer là-dessus pour prévoir une affiche de Summer League dès la Summer League avec l'équipe de Risacher et l'équipe de Boutzelis. Puis il y aura ça aussi en saison régulière. Ça donne du piment maintenant. Ouais, c'est assez étonnant aussi. Bon, mais après, c'est bien. On n'aime pas quand la Ligue est aseptisée. Donc, c'est bien s'il a parlé. Juste, c'est juste le fond derrière des fois qui m'étonne un peu. Mais...
Ouais, après là, il a répondu à la question parce que les workouts, c'est quand même très, enfin c'est assez rare si je dis pas de bêtises que des mecs qui sont
les
annoncés,
meilleurs prospects, ils font pas de
ouais, et puis ça affronte pas même
plus,
si,
ça.
Voilà, parfois ils sont invités par les mêmes équipes, mais c'est rare qu'ils font pas des oppositions comme ça. C'est, enfin, genre ça, ils ont aucun intérêt à faire ça. Et parfois ils s'entraînent, parfois il y a des mecs qui des loteries épiques qui s'entraînent, ils font des workouts avec d'autres mecs censés être pris plus loin, mais là deux types qui sont censés être dans le top 10 voire top 5, ça, bon, je vois pas trop où ils vont en venir à part dire c'est moi je suis meilleur que lui, Sauf qu'il y en a un qui est déjà en vacances et l'autre qui va jouer les playoffs de son championnat et peut-être une finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, on surveillera avec attention la progression de Matas Boudzelis, qui, je le répète, est un très très bon talent. C'est un gros prospect de la prochaine draft.
Ah, mais c'est dur de jauger vraiment les joueurs de J-League Unit. On a vu qu'il peut y avoir des joueurs très intéressants, que ce soit Jalen Green, que ce soit Jonathan Kuminga. Par contre, on a vu aussi que ça met du temps, peut-être même presque un peu plus de temps, pour se développer les premières saisons, parce qu'il y a un écart de niveau avec la J-League qui est 10 fois plus grand que l'écart de niveau entre les mecs qui arrivent de championnat européen et qui se retrouvent en NBA. Quoi. L'adaptation, elle est différente pour ces mecs-là. Après, il peut y avoir des gros talents, ça n'empêche pas. On verra ce que ça va donner pour
Boudzelis. En attendant, Zachary Zaché est toujours dans pas mal de projections et de mock draft de médias assez sérieux. Au minimum top 3, et souvent encore first pick.
Ils ont du mal à savoir. En fait, ils ont du mal à trouver. Il n'y a pas un mec qui domine.
Ben, c'est ça. Et le problème, c'est qu'ils avaient commencé un petit buzz sur Rich Shepard, peut-être un Américain first pick. Sauf que Kentucky s'est fait sortir au premier tour, donc ça plaît. Enfin,
puis il n'a pas le profil tellement first pick non plus. En fait.
Je pense pas non plus.
Même Rob Dillingham.
Bah ouais. Et puis ils savent pas trop, même avec les Français, ils sont prudents. Même s'il y a eu Wembanyama, ils sont prudents. Ils savent bien que c'est pas des joueurs non plus de la trempe du potentiel de Wembanyama. Alex Sarr, ça reste quelque chose de loin, c'est l'Australie. Rizaché, c'est la France. Enfin, c'est bon.
Puis il y en a aucun. En fait, aucun de ces mecs-là a un potentiel star. Le truc, c'est que quand tu arrives avec le statut de premier choix de draft, tu es présenté comme toi, tu seras une star en NBA. Et en fait, dans cette QV, c'est dur de savoir quel mec a vraiment ce potentiel de star. Ceux qui auraient pu l'être un peu. Rob Dillingham, il a un potentiel de scoreur, mais c'est pas non plus un gars auquel tu penses forcément pour la star. Cody Williams, pareil. Tu vois, donc il y a un peu ce défaut de. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que Zachary Zaché a un premier choix par défaut, mais ils n'ont pas de tête d'affiche de cette QV. Et du coup, Rizaché, qui est peut-être le mec qui sera amené à avoir une très belle carrière et qui a un côté basketteur déjà prêt et déjà complet, il sort du lot.
Absolument.
On va se laisser là-dessus, Shai. On se retrouve de toute façon demain pour un autre CQFR. Demain, vous aurez aussi le replay de la late session. Le Moop Deep a été posté hier.
Oui,
c'est ça. Donc, allez jeter un œil sur l'utilisation de Wembanyama par les Spurs, si je dis pas
tout. C'est ça. Très, très épisode très intéressant. Très peu pour les fans des analyses pointues et détaillées. C'est très, très bon épisode.
Yes. Bon, nous, du coup, on se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.
Bonne journée.